Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour et soyez les bienvenus à Marcher vers le bien-être. Aujourd'hui, notre exploration des bienfaits de la marche nous transporte en Europe, au début des années 70. À l'époque, un peu partout, on sentait le besoin de reprendre la forme, de mettre sur pied des activités saines et non compétitives pour l'ensemble de la population et surtout adaptées aux personnes de tous les âges. Les efforts déployés dans plusieurs collectivités, petites et grandes, ont rapidement porté fruit. Ils ont conduit notamment au développement de clubs locaux que l'on a surnommés « Volkssport ». Littéralement, « Volkssport » se traduit par « sport du peuple » ou « sport populaire ». Volks, peuple, sport, bien sûr, sport. Il faut se rappeler que la lettre V en allemand se prononce F en français, mais dans l'usage courant au Canada, on prononce « Volks » comme si c'était effectivement un V. Toujours est-il que le concept des Volkssport des années 70 a vite gagné en popularité. Et dès le début, on parrainait autant la marche que le vélo, la natation et le ski de fond. D'ailleurs, j'ai pu goûter aux bienfaits de la Volksmarch lors de mon séjour prolongé en Allemagne. C'était dans les années 76 et 77. J'adorais ces sorties pédestres d'une journée en forêt noire, imaginez, et desquelles on recevait toujours une petite médaille tout simplement pour y avoir participé. C'était très motivant et j'ai vite fait d'en garnir un demi-mur. Cet esprit de convivialité et de plein air des Volkssport et Volksmarch s'est graduellement répandu à travers le monde, dont au Canada et aux États-Unis, sous la bannière de la Fédération internationale des sports populaires. En 1987, on créa la Fédération canadienne Volkssport avec comme mission d'unifier et de soutenir les clubs membres d'un océan à l'autre. Et comme je le mentionnais au début, bien que les activités de Volkssport incluent la marche, la natation, le ski de fond et le cyclisme, ce sont les événements de marche qui sont les plus populaires au Canada. Il y a d'ailleurs plus de 30 clubs au Canada, dont deux au Québec, et tous offrent une grande variété de marches. Les randonnées se font dans tous les milieux, que ce soit en pleine nature, en forêt, en montagne et à la campagne, ou encore en ville, dans les rues, les sentiers urbains et les parcs. Dans quelques instants, je m'entretiendrai avec Joanne Desrosiers, présidente du club Volksmarch La Foulée de Saint-Eustache, et elle nous expliquera le fonctionnement et surtout les activités offertes par le club. Et un peu plus tard dans l'émission, un invité très spécial nous parlera de quelques-unes de ses destinations préférées du point de vue de la marche. Avis à ceux et celles en manque de voyage ou qui rêvent de partir. Mais pour nous mettre dans l'ambiance, voici un vieil enregistrement d'un chant scout que nous avons tous et toutes fredonné à un moment donné, j'en suis certain. Le joyeux promeneur.
Par les sentiers sous le ciel bleu, j'aime à me promener. Le sac au dos, le cœur joyeux, je me mets à chanter.
Joyeux promeneur.
Alors bonjour Joanne et merci beaucoup de nous rendre visite en studio.
Bien, merci, bonjour, merci pour l'invitation.
Alors parlons d'abord de votre club bien à vous, Fox March La Foulée. Alors quand et comment a-t-il vu le jour?
Bien, il a été créé en 1993 par Michel Faubert. Personne qui était très intéressée par le sport. Je pense qu'il y avait un magasin de sport même. Et je pense qu'il était allé en Allemagne aussi. Donc, il avait connu le Vogue Sport en Allemagne. Au début, ça a commencé tranquillement avec deux marches de ville, le lundi et le mercredi. Ensuite, ils ont commencé à faire quelques randonnées dans l'année où ils allaient un peu partout au Québec ou aux États-Unis. Alors, ça a commencé comme ça. Dès un an après la fondation du club, il y avait déjà 150 membres. Alors, ça a été vraiment bien reçu par la population. Et puis, c'est devenu d'ailleurs un des plus imposants clubs de marche à ce moment-là au Québec. Ces marches-là, évidemment, l'objectif, c'était de faire marcher les gens de 0 à 99 ans. Là, c'était vraiment comme ça que c'était perçu.
Et vous êtes là depuis le début, c'est ça?
Je suis arrivée en 1999. À ce moment-là, j'ai commencé par être une membre, à participer aux activités, surtout les activités de semaine, donc des marches de ville. Et puis par la suite, bien, je suis devenue responsable d'une marche de ville à Blainville. Donc, ça fait 22 ans et demi que je fais la marche le mardi et le jeudi soir. Et après, en 2003, je suis rentrée au conseil d'administration. Et depuis 2010, je suis la présidente du club.
Donc, vous êtes avec le club depuis quoi, 23 ans, 22
ans? Presque 23 ans en mars.
Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce que vous cherchez dans ces activités?
Bien, à la base, je pense que c'était une remise en forme. Je venais de traverser un cancer. Donc, l'année qui a suivi ça, je voulais me reprendre en main, comme on dit. Et puis, j'ai commencé à marcher. C'est sûr que le bien-être de la marche... Il n'y a rien de mieux, là, c'est parfait. Même une marche de ville, c'est très bon parce que c'est quand même un exercice. On marche d'un bon pas, c'est régulier. Et puis le plein air, découvrir plein de sentiers, c'est vraiment ce qui nous motive le plus.
On y reviendra un peu plus tard, justement, sur les bienfaits de la marche et des clubs de marche. La science l'a démontré, la marche est excellente pour améliorer la santé physique et la santé mentale. Maintenant, on peut faire ça tout seul aussi. Moi, je le fais la plupart du temps tout seul. La plupart des gens que je connais marchent beaucoup, mais marchent plutôt en solitaire ou à deux. Quelle est la différence entre la marche solitaire, marcher tout seul, et la marche en club de marche, justement?
Bien, il y a un gros élément de motivation parce que marcher tout seul, oui, mais pour certaines personnes, c'est moins intéressant, ils aiment moins ça, ils aiment socialiser. Et puis, au point de vue sécurité aussi, quand je pense, par exemple, la semaine, on marche le soir, de octobre à mars, il fait noir. Donc, les femmes, en général, n'aiment pas marcher seul. Donc, avec un groupe, c'est plus sécuritaire, c'est encadré. Et puis, tu sais, des fois, tu te dis, avec une amie ou une voisine, on s'est dit qu'on va marcher toutes les semaines. Finalement, l'ami n'est jamais disponible, tandis qu'avec un club, tu sais qu'il y a toujours quelqu'un qui est présent. Donc, c'est vraiment une motivation intéressante et qui amène les gens, justement, à marcher plus.
Et on a souvent des clubs ad hoc, je dirais, là, pour le quartier, qui se promènent les vendredis matins, par exemple. On sort pendant une heure ou deux. Mais vous, c'est beaucoup plus structuré comme
activité,
comme club.
Nous, on a en fait 5 secteurs de marche, parce que si le club a commencé à Saint-Eustache, à partir de 99-2000, on a commencé à étendre. Donc, il y a un sous-secteur à Blainville, un autre à Sainte-Thérèse, et on a une marche qui se fait aussi du côté de Laval-sur-le-Lac. Donc ça, c'est les marches qu'on appelle de ville le soir. C'est fixe, c'est à l'année.
Donc, comment ça se passe, une marche de ville?
Bien, on a un lieu de rencontre qui est toujours le même, avec une heure précise, et on part vraiment à l'heure précise. Et on fait 5 kilomètres, entre 5 et 6, je dirais, pendant une heure. Et ça, c'est toute l'année.
À toutes les semaines?
À toutes les semaines. Par contre, on a tout un calendrier d'activités les fins de semaine. Oui. En général, on a à peu près 49 activités de fin de semaine par année. Ça veut dire que c'est presque toutes les fins de semaine où, dépendamment de la saison, on va faire soit des marches de ville, soit des petits sentiers, des montagnes, du vélo, du ski de fond, de la raquette. Donc, c'est assez varié.
Et quand vous parlez de marches continuelles que j'ai vues sur votre site?
Bien, en fait, les marches de ville, ce sont des marches continuelles parce qu'on marche toute l'année. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. Et puis, une marche continuelle, c'est aussi que n'importe qui peut venir faire cette marche-là, peu importe le lieu où il y a des marches comme ça là, qui sont enregistrées.
Donc, vous marchez, disons, vous faites un quartier à la fois. Est-ce que vous visitez toute
la
ville?
Moi, j'aime beaucoup la variété parce oui. qu'après 22 ans et demi, si oui. je faisais toujours oui. le même circuit, je serais peut-être pas là. Alors, j'en crée toujours. Comme à Blainville, j'en ai à peu près 18 qu'on fait de façon régulière.
Donc, et vous avez aussi des randonnées d'une journée complète?
Oui, ça, c'est les fins de semaine. Alors là, c'est là que l'on va sortir de la ville, finalement, et on va aller faire des sentiers. En général, on se tient plus Laurentides-Lanaudière. Avec toutes les problématiques de pont, on vient un petit peu moins sur la rive sud, mais c'est pas exclu.
Mm-hmm. Quelles sont les plus populaires?
Les randonnées?
Oui. Parmi la ville, la campagne, la forêt?
Bien, c'est très varié parce qu'il y a des gens qui ne font que les marches de ville. Il y en a d'autres qui ne font que les montagnes. Donc, ça rejoint à peu près tout le monde. Je dirais qu'il y a un gros volume pour les marches de ville.
Est-ce que l'aspect socialisant est peut-être le plus important, surtout après la pandémie qu'on vient de connaître?
C'est extrêmement important parce que c'est sûr que là, avec ce qu'on vient de vivre, on a eu des arrêts d'activité pendant 6 mois la dernière année, 3 mois l'année d'avant. Donc, mais oui, c'est un élément très important, la socialisation, parce que les gens sont contents. De un, je voudrais préciser que ce n'était pas un club de rencontre. Les gens nous demandent, mais
ça peut se produire quand même.
Oui, ça peut se produire. J'ai des exemples. mais j'ai environ 60 % que ce sont des femmes, que ce soit des femmes célibataires ou des femmes en couple, mais dont le conjoint soit est malade ou qui ne fait pas d'activité ou ce genre d'activité-là. Donc, c'est un lieu de rencontre. Les gens se font connaissance. Ça crée toutes sortes de liens. Ça peut être des voyages qui s'organisent entre ces amis-là. Ça peut être un support en temps de maladie ou c'est infini, dans le fond.
Est-ce que les marches sont adaptées à la condition physique des personnes? Il y a des personnes qui marchent évidemment plus rapidement que d'autres, qui ont plus de
quand on fait des marches de ville, moi, je dis toujours, il y a les premiers puis il y a les derniers. Donc, c'est pas une course. Et puis, le principe même du Vauxsport, c'est un sport, c'est une activité amicale non compétitive. Alors, oui, il y a moyen de marcher, mais c'est sûr que ça demande quand même un minimum. Quand les gens nous appellent, ben on leur dit « Êtes-vous capable de marcher au moins 5 km dans une heure? » Parce que faut pas non plus être toujours en train d'attendre les autres, parce que là, il y en a qui vont décrocher si c'est comme ça. Donc, on leur demande quand même un minimum, là.
Mm-hmm. Nous allons prendre une courte pause pour écouter le chant des randonneurs. Je crois que vous connaissez bien. Et on poursuit notre conversation.
Muni d'un bâton et d'un chapeau, d'une boussole et d'un sac à dos, au pied des chaussures très confortables, ils se réunissent autour d'une table. Boussole en main, les yeux sur la carte, au long du chemin ils font la halte. Et sur terre et tête dans les étoiles, ils sont encore prêts à mettre les voiles. Les joyeux randonneurs, toujours prêts à partir ailleurs. Voilà les randonneurs, marchant dans les champs pleins de fleurs. Très respectueux de la nature, toujours très heureux dans leur chapeau sur la tête et le sac sur le dos, ils sont toujours prêts pour la rando. Qu'ils soient à la mer ou en montagne,
joue les chants. Les joyeux randonneurs, toujours prêts à partir ailleurs. Voilà les randonneurs, marchant dans les champs pleins de fleurs. Quand ils te forent la cape, les abrites, ils marchent plus fort, un peu plus vite. Mais quoi qu'il arrive, toujours la même envie. Allez tous à pied au paradis. Quand la fatigue les surprend en route, ils s'arrêtent pour manger le casse-croûte. Ils se désaltèrent à la fontaine et repartent pour marcher dans la plaine. Les joyeux randonneurs, toujours prêts à partir ailleurs. Voilà les randonneurs, marchant dans les champs pleins de fleurs. Les joyeux randonneurs, toujours prêts à partir ailleurs. Voilà les randonneurs, marchant dans les champs pleins de fleurs. Les joyeux randonneurs, toujours prêts à partir ailleurs. Voilà les randonneurs, marchant dans les champs pleins de fleurs. Les joyeux randonneurs, toujours prêts à partir ailleurs. Voilà les randonneurs, marchant dans les champs pleins de fleurs.
Alors, nous sommes de retour en compagnie de Joanne Desrosiers du club de marche La Foulée. Nous restons dans la forêt parce que la forêt a évidemment un effet bénéfique, on l'a vu dans d'autres émissions, sur le bien-être d'une personne. Est-ce que c'est ce que vous avez remarqué aussi chez vos participants?
Ah, bien sûr. Aller dans la nature... Moi, j'ai toujours dit, vu que je fais presque toutes les activités de fin de semaine, j'ai toujours l'impression d'être en vacances. C'est toute la semaine au travail, c'est beaucoup d'exigences, du stress, tandis que aller faire une randonnée en montagne, que ce soit d'un niveau difficile ou intermédiaire ou facile, de se retrouver en forêt, au bord d'un lac, c'est très apaisant, c'est très, très intéressant.
Mm-hmm.
Et de le partager avec d'autres aussi.
Oui, c'est ça, exactement. Alors, si j'ai bien compris, c'est une saine habitude à développer, cette habitude de rencontre avec les membres du club de marche, que ce soit en ville ou...
Je dis souvent, quand je suis obligée d'arrêter pour une raison particulière, ça me manque. Donc, c'est comme un besoin.
Vous êtes affilié, si j'ai bien compris, à la Fédération canadienne Folk Sport. Est-ce qu'il y a des avantages au-delà de ce dont nous avons parlé?
Bien, moi, j'aime beaucoup le Folk Sport pour une raison, c'est que il y en a dans toutes les provinces canadiennes. Il y a 30 clubs au Canada, 2 au Québec, 1 à Québec et nous. Et moi, j'ai visité... presque toutes les provinces canadiennes. Et je me fais toujours un devoir d'aller faire au moins une marche avant de partir. Je vérifie toujours qu'est-ce qu'il y a de possibilités. Et à ce moment-là, c'est surtout des marches de ville qu'on fait parce que, tu mettons, à Vancouver, à Victoria ou Calgary. Mais ça permet de visiter la ville, une autre façon de faire du tourisme. En général, ces marches-là nous font passer par les plus beaux endroits. Donc, c'est vraiment... Puis c'est un trajet écrit, donc on peut le faire de façon indépendante. Là, on part tout seul ou accompagné si on est en couple, mettons. Et on peut aller faire ces marches-là. Donc, c'est vraiment... pour moi, je trouve que c'est vraiment le fun. Puis même quand je vais au Québec, dans la région de Québec, je regarde laquelle que je peux aller faire. Je les ai fait plusieurs fois, là, mais des fois, ça donne aussi que je peux aller me joindre à ce club-là pour aller faire une marche. Donc, c'est un autre volet que je trouve intéressant, qui se rajoute au bien-être de faire une marche, bien sûr, mais ça se rajoute en termes de d'ajouter l'élément touristique et d'aller découvrir des choses dans ces villes-là.
Donc, ce sont des destinations que vous n'auriez probablement jamais visitées de toute façon, sans le circuit des groupes de marche.
Bien, c'est sûr que si je visite Vancouver, je vais sûrement aller visiter ces choses-là, mais ça reste que c'est un circuit qui est écrit, donc tu te promènes, nous on en a un dans le Vieux-Montréal, alors quelqu'un qui n'a jamais visité Montréal, puis qui n'a pas beaucoup de temps, puis qui ne veut pas nécessairement rejoindre un organisme payant, nous on a une marche comme ça de 10 km dans le Vieux-Montréal qui est intéressante à faire, et puis ça fait découvrir vraiment tous les aspects du Vieux.
Je pensais surtout aux destinations qu'on ne visiterait peut-être pas à l'extérieur des grandes villes, justement.
Oui. Oui, il y a des marches aussi dans des petites villes. C'est pas juste les grandes villes. Oui. Quand tu regardes dans le coin d'Ottawa, par exemple, il y en a plusieurs. Là, je ne me rappelle plus combien il y en a exactement, mais oui, ça te fait voir. Moi, par exemple, je suis allée en Nouvelle-Écosse une année et j'ai fait 11 Volksmarches. Parce qu'il y en avait plusieurs à différents endroits, toutes sortes de petites villes que j'aurais peut-être pas arrêté si je l'avais fait juste en voiture, faire le tour de la Nouvelle-Écosse, par exemple. Donc, moi, pour moi, personnellement, je trouve que c'est un élément intéressant du Vauxport de t'amener à aller voir autre chose.
Pour les endroits nouveaux que vous visitez, pour les gens que vous rencontrez aussi.
C'est ça.
Donc, c'est une autre façon de faire du tourisme. Vous me disiez aussi, avant l'émission, qu'il y a des gens de l'extérieur, de l'international, en fait, qui profitent de cette occasion de visiter le Canada d'une toute autre façon.
Bien, étant donné que c'est un club qui est affilié au grand club Vauxport, c'est publié sur le web, si on peut dire. Donc, c'est pas rare qu'on a des Allemands, des Américains qui viennent faire des marches, surtout Montréal puis Mont-Royal.
Et les gens qui sont venus des destinations les plus éloignées, des pays les plus éloignés dont vous vous souvenez, ça serait quoi?
Je pense que c'est l'Allemagne.
C'est l'Allemagne, OK. Parce que c'est une habitude qui est ancrée dans la culture là-bas. Donc,
c'est originaire
pour eux,
de là, donc...
c'est ça, oui, excellent. Je repense à la Fédération. Y a-t-il d'autres avantages? Ils ont des programmes particuliers de leur côté?
Ben, les programmes qu'ils ont dans le fond, c'est ils vont faire toutes sortes de programmes de marche. Mettons que tu peux faire un programme de marche que c'est pour les ponts couverts. Tu peux faire un programme de marche que c'est pour les monuments importants. Il y en a différents comme ça, là. Ça te donne des défis, dans le fond, tu sais, de faire...
C'est par thématique, donc?
Oui, il y a des thématiques. Il peut y avoir des thématiques. C'est volontaire, là. Tu peux t'inscrire et puis... à un moment donné, il y en avait un sur les phares. Fait que moi, je l'ai fait, celui-là. Donc,
en Nouvelle-Écosse, probablement.
Oui.
Oui. Et vos plus beaux souvenirs de tous ces voyages, ce serait quoi?
Ben moi, j'ai participé à des congrès Vauxport. Alors, ils en font à chaque année. Cette année, ça va être dans le coin de Vancouver. Mais on ne peut pas toujours y aller. C'est quand même dispendieux, ce voyage-là. Mais j'ai fait celui de la Nouvelle-Écosse, justement, puis un à Québec et un à Ottawa. Donc, c'est le fun de se retrouver. Là, tu te retrouves à 200, 300 personnes... pour cet événement-là. Donc, tu fais des rencontres. Moi, j'ai rencontré des gens que j'ai encore des contacts avec eux à l'occasion. Donc, c'est intéressant quand même. Il y a même des Olympiades, imaginez-vous, à l'international.
Alors, des Olympiades. Comment ça se déroule?
Ben là, je ne suis jamais allée. Je ne peux pas vous en parler, mais c'est encore là. C'est des marches qui sont organisées dans un pays. Et puis, les gens de différents pays sont invités à s'inscrire et à aller faire les marches.
Au début de l'émission, je parlais des jolies petites médailles qu'on recevait en Forêt-Noire. Est-ce qu'on a un peu la même chose aujourd'hui? Est-ce que ça perdure?
Bien, en fait, ça a duré jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps. Et je pense qu'il y a 2 ans, ils ont arrêté d'en distribuer. Probablement question économique. Mm-hmm. Mais tu as des certificats encore. Il y avait beaucoup d'écussons.
Ah oui.
Alors, j'en ai une bonne collection, moi aussi.
Et ben, c'est parce que c'est motivant, je trouve.
Oui.
On a une certaine fierté d'avoir participé à toutes ces marches.
Mais
un
en
peu
fait,
comme...
on cumule des kilomètres dans des carnets. C'est volontaire, hein? C'est pas tout le monde qui le fait, mais ceux qui veulent le faire le font. Ça aussi, c'est un genre de motivation. Il y a des gens qui disent, bon, cette année, je vais essayer de marcher 500 kilomètres. Alors, puis quand ils le font, ben, ils sont bien contents. Mais c'est pas tout le monde. C'est vraiment laissé à la liberté de chacun s'ils veulent ou non cumuler leur kilométrage.
Ah oui, c'est un peu le principe peut-être éloigné du passeport de Compostelle, du certificat de Compostelle. À chaque activité, on l'estampille et puis au bout de la ligne, on reçoit quelque chose.
C'est ça.
Bon, écoutez, on va prendre une autre pause musicale. Et j'ai une foire à questions. J'ai quelques questions pratiques pour toutes ceux et celles qui aimeraient participer à votre club et bien sûr tous les autres clubs de marche au Québec et au Canada. Nous sommes toujours en compagnie de Joanne Desrosiers du Club de marche La Foulée. J'ai effectivement quelques questions très pratiques pour les auditeurs et auditrices que cela pourrait intéresser. D'abord, quel est le coût d'une randonnée? Est-ce qu'il y a un coût par saison, par activité? Comment ça fonctionne?
Tout ce qui est activité vaut que sport, c'est 2 $.
C'est tout?
C'est tout. C'est ouvert à tous. Quand on n'a pas tout le temps, toutes nos activités ne sont pas toujours Vaux-Sport. Nous, on a une formule hybride, donc c'est une décision que nous avons prise en tant qu'organisation à un moment donné. Mais quand on va en randonnée de montagne, c'est sûr que là, il y a le coût de l'entrée au parc où est-ce qu'on va. Donc, c'est ces coûts-là. Puis il y a plusieurs randonnées qu'on fait qu'il n'y a aucun coût, donc c'est gratuit. C'est sûr que là, nous sommes aussi membres de Rando Québec. Tous nos membres sont membres de Rando Québec depuis le tout début.
Excellent.
Question d'assurance, on accepte un non-membre uniquement une fois dans l'année. Ensuite, il doit devenir membre. Alors, pour devenir membre du club, c'est 40 $ pour un individu et 52 pour un couple ou une famille.
Vous parliez tantôt que la majorité, en fait, 60 % des participants ou participantes, je devrais peut-être dire, sont des femmes. Qu'en est-il de la moyenne d'âge des participants? Est-ce qu'on a des jeunes, des vieux, des moins vieux, des plus jeunes, quoi que ce soit?
Bien, je vous dirais qu'entre 40 et 70 ans, on a des membres dans à peu près toutes les catégories. Actuellement, la moyenne tourne plus autour de 60, mais c'est du monde qui sont en forme, là. Je parle des gens qui font des montagnes là, de façon régulière.
Bon, pas de trekking, mais de randonnée en montagne.
De randonnée, oui.
Même
ceux qui font juste des marches de ville, tu sais, quand même, parce que souvent le samedi matin, entre saisons, on fait des marches de ville de 10 km. Donc, un 10 km, c'est quand même un bon 2 heures de marche. Il faut quand même être capable de le faire. Là.
Un pas assez alerte quand même, là. C'est 5 km à l'heure.
Oui,
excellent. Est-ce qu'on doit prévoir de l'équipement particulier? C'est une considération que plusieurs personnes ont avant de partir.
Bien, tout dépend de l'activité qu'on va faire, tout dépend de la saison. En général, un bon soulier de marche, c'est correct pour une marche de ville. Si on parle d'une randonnée en montagne, bien, nous, on privilégie une botte de randonnée, des bâtons de marche, un sac à dos assez grand pour contenir un lunch, puis des vêtements de rechange peut-être suivant la saison. Des fois, il fait chaud, il fait moins chaud. Toutes sortes de choses, là, de insecticides, de l'eau en quantité suffisante parce que souvent les gens, nous, on le constate quand on a des nouveaux membres des fois, ils n'estiment pas la quantité d'eau que ça peut prendre quand on fait une randonnée. Mm-hmm. C'est sûr qu'à l'automne, c'est plus frais. On a tendance à boire moins. Mais quand il fait plus chaud, là, faut de l'eau. Puis se rationner en eau pendant qu'on fait une montagne, c'est vraiment pas le fun, là.
Donc, on n'a pas besoin de formation particulière. Vous acceptez les débutants, en fait, n'importe qui, à moins d'un problème physique important,
comme je vous disais tantôt, on accepte les débutants, mais on va questionner.
Oui.
Parce que les gens, des fois, vont surestimer leur capacité. Donc, des fois, juste en parlant avec eux, on peut dire, je vous suggère peut-être de venir commencer par une petite marche, ensuite, ou tu peux les enligner sur, on va faire tel sentier prochainement. Je pense que vous pourriez commencer à venir faire ça avant de venir faire une grande montagne parce que se retrouver en groupe avec quelqu'un qui a de la difficulté, c'est vraiment pas le fun, ni pour cette personne-là, ni pour le groupe.
Reste, oui.
Donc, on essaye de... Oui, on accepte des gens, des nouveaux, mais on essaye de jauger un petit peu. Des fois, on est capable, des fois, non. Des fois aussi, ce qui est drôle, c'est que les gens... ont fait beaucoup de randonnées pendant des années, il y a 20 ans, et ils ont gardé dans l'esprit qu'ils sont encore très bons. Et des fois, on a la surprise de constater que non.
La réalité nous rattrape.
Oui, c'est
parfois.
Ça. C'est ça.
Vous parliez des gens qui socialisent beaucoup.
Oui.
J'imagine qu'on s'attache à cette formule, qu'on revoit les mêmes personnes, les mêmes amis de semaine en semaine. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là depuis des années?
Oui.
Pour qui c'est devenu, ils sont devenus accros, presque?
C'est assez fluctuant. Il y a des gens qui sont là, j'ai un couple justement qui sont là depuis la fondation en 93. J'en ai beaucoup qui sont là depuis une vingtaine d'années aussi. Mais c'est un petit peu, je dirais, comme les gens qui s'inscrivent à des centres sportifs. Ils ont beaucoup de motivation au départ. Et puis, c'est ça. Donc, il y a un gros mouvement qui se fait au niveau des membres, mais il y a quand même plusieurs membres qui sont là depuis longtemps. Puis comme je disais tantôt, il y en a qui ne font que des marches de ville qui font que des montagnes. Donc, on ne retrouve pas nécessairement les mêmes personnes dans les deux activités. Mais... Il y en a pour qui c'était la première fois qu'ils faisaient des sorties comme ça, et puis ils ont adoré ça, puis ils continuent, ou ils peuvent continuer par eux-mêmes aussi.
Et ils se sentent mieux physiquement, mentalement, socialement.
Ah, définitivement.
Ça a été une transformation pour eux et pour elles.
Ah, ben moi, j'ai des membres pour qui la sortie du samedi, c'est essentiel, là. Comme je vous disais tantôt, il y a beaucoup de personnes seules, un peu moins d'hommes seuls. Plus de femmes. On a beaucoup de couples aussi. C'est une activité importante le samedi.
Si vous aviez à lancer un message pour inviter, motiver tous ceux et celles qui sont à l'écoute, ça serait quoi?
Je pense que la nature est belle, la vie est belle. Faut en profiter, puis pourquoi pas en profiter à l'extérieur, puis en profiter avec d'autres personnes, de faire des belles rencontres, et puis de prendre soin de soi. On a tous le même objectif dans la vie, c'est de vieillir en santé, en forme, et le plus longtemps possible. Alors, pourquoi ne pas prendre la chance d'adhérer à une activité qui nous plaît? Il faut prendre quelque chose qu'on aime. Et puis, des fois, juste le fait de rencontrer des gens, ça fait toute la différence. Parce que, comme je disais tantôt, des fois, marcher seul, ça peut être ennuyeux pour certaines personnes. Puis, juste le fait d'aller marcher avec quelqu'un, ça change toute la donne. Donc, oser.
Donc, on peut s'aérer l'esprit et changer les idées aussi en rencontrant des personnes nouvelles. Beau message, beau message. Alors, si on veut en connaître davantage, on va sur votre site, j'imagine.
Oui, vous pouvez voir sur notre site. Il y a des clubs de marche un peu partout. Je vous suggère aussi de regarder sur le site de Rando-Québec, où tous les clubs de marche sont listés dans les différentes régions du Québec. Alors, c'est intéressant. Il y en a beaucoup, des clubs de marche. C'est vraiment étonnant.
J'ai noté aussi que sur votre propre site, vous aviez beaucoup de liens à justement Rando-Québec et la Fédération et ainsi de suite. Donc, une mine d'or de renseignements.
Effectivement, si on veut avoir des renseignements sur le Vaux-Sport, on a un lien pour www.vaux.ca où on trouve vraiment c'est quoi le Vaux-Sport et où il y a des marches. Si on prévoit un petit voyage quelque part, ne serait-ce qu'en Ontario, je viens d'en faire une justement cet été.
Ah oui.
Alors, c'est intéressant d'aller fouiller un petit peu puis trouver. Il y a de quoi s'occuper.
Joanne Desrosiers, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et surtout de nous avoir motivés de si belle façon à marcher vers le bien-être.
Bien, merci beaucoup.
À bientôt.
Merci.
Alors, chers amis, j'ai le grand plaisir d'accueillir au micro un ami de longue date, Stéphane Chenec. Il a beaucoup voyagé, il a travaillé à la radio, il a travaillé en aviation, il travaille toujours en aviation d'abord, et c'est une des personnes qui a peut-être accumulé le plus de points bonis pour les heures passées à bord des appareils, Stéphane. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, Denis.
Et merci d'avoir accepté l'invitation de parler de destinations particulièrement intéressantes pour les piétons, c'est-à-dire visiter les grandes villes du monde à pied. Vous en avez visité plusieurs. Peut-être un petit tour d'horizon des continents, des régions du monde que vous avez visitées.
Oui, tout à fait, Denis. Il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de pays. À un moment donné, j'ai arrêté de les compter. J'étais rendu à peu près à 80, je pense à 93, 94. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que la marche dans tous ces pays-là, que ce soit dans les villes, que ce soit, par exemple, sur le bord d'un lac, en forêt, mm-hmm. c'est quelque chose qui m'a permis, moi, de me retrouver un peu. Il y a différentes façons de marcher, en fait. Hein. Il y a la marche de la nécessité, parce que vous devez vous rendre quelque part à une réunion. C'est mal desservi en transport, vous allez marcher longtemps. Dans d'autres cas, ça peut être aussi des raisons financières. Bon, toutes sortes de raisons. Ou tout simplement, vous avez un peu de temps, il fait beau. Moi, je suis revenu chez mon dentiste l'autre jour à Montréal, j'ai fait 14 kilomètres. Les gens me traitaient de fou, mais je disais, écoute, il fait beau. Et je passais à travers toutes les communautés culturelles de Montréal.
Voilà.
Ouais. Mais à l'étranger, c'est le plaisir de la marche, c'est, j'allais dire, un peu de communier avec le monde autour de vous. Et dans ce sens-là, ça peut être en milieu urbain ou ça peut être aussi dans un milieu comme je disais, sur le bord d'un lac, une plage,
oui.
Donc avec la nature. Et la nature, pour moi, c'est important. Presque, j'allais dire, j'ai vécu toute ma jeunesse à côté d'un parc, le parc du Mont-Saint-Bruno. Donc, j'ai été très, très vite un adepte de la marche en mini-forêt. Mais dans les villes, j'ai eu des marches découvertes, des villes historiques comme Rome, comme Londres, comme Paris, parfois par moi-même. Londres, très, très souvent par moi-même, mais parfois des villes, je vous dirais comme Dublin, ou Budapest, où là, c'était en groupe pendant 3 heures. Puis là, il y a une notion de partage qui est très intéressante. Il y a des villes où on n'a pas le choix à cause de la langue. Vous êtes obligé d'avoir un guide urbain qui est en anglais, comme à Budapest. Mais dans toutes ces villes-là, il y a la notion de découverte. Il y a également la notion de découverte, soit de quartier. Pour moi, à cet égard, je dirais que New York et Hong Kong sont deux villes où on passe à travers toutes sortes de quartiers. Et c'est là que ça nous interpelle énormément, parce que si on ne peut pas voir ça, si on est en taxi ou on le voit mal, il faut marcher, il faut sentir les odeurs. Bon, il y a des villes à éviter quand même, là, je dirais, moi je dis toujours en blague, là, j'espère qu'il n'y a personne qui nous entend qui vient de là, mais Sticky Kuala Lumpur, en Malaisie, où il y a une température ambiante de 42 degrés, pas très propice à la marche, ou Chicago, en plein hiver, quand on gèle à moins 20 5, moins 30. Mais mis à part ça, c'est une façon de découvrir la faune urbaine. Et vous avez des villes aussi, moi je les appelle un peu les villes coup de poing.
Coup de poing.
Coup de poing. À cet égard, par exemple, Tokyo a été pour moi une ville coup de poing parce que on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète. La culture autour, les habitudes, la façon que les gens se comportent autour de vous, il y a peut-être un côté surréel la première fois qu'on y va. Et Cape Town. Parce que là, on se dit, hey, je suis vraiment à l'autre bout de la planète.
En Afrique du Sud.
En Afrique du Sud, au Cap, où là, après 18 heures de vol, vous êtes vraiment dans un autre monde. Et Cape Town, le Cap, allie en même temps le côté très, très urbain de la ville, avec toute cette diversité, avec la beauté ambiante, notamment le Table Mountain. Malheureusement, on peut le traduire par la montagne de la table, mais ce serait une mauvaise traduction, qui donne à cette ville-là un cachet absolument extraordinaire que vous n'avez pas à Vancouver, où, ben, évidemment, il y a une baie qui est merveilleuse, mais il n'y a pas de montagne. Et là, vous avez la mer Atlantique Sud, vous avez la montagne et vous avez la faune urbaine. Tout ça en condensé.
Et votre ville préférée, s'il y en a une, ou il y en a peut-être plus qu'une, si j'ai bien compris?
My God! Il y en a plus d'une. C'est toujours la difficulté que j'ai de trouver, de me dire, bon, quelle est la ville? Je serais tenté, Denis, de vous dire que, tout azimut, ma ville préférée, c'est probablement Rome. Mais c'est peut-être... à cause du rythme de vie, de la culture italienne que j'adore, le fait qu'en même temps, elle a ce dont je parlais tantôt, la montagne puis le lac en moins, mais elle a aussi l'autre petit côté de la découverte. Il y a la découverte historique, mais il y a aussi la découverte un peu de la Dolce Vita. Hein? Au-delà des quartiers, il y a les petites boutiques, il y a les cafés, cette espèce de marche urbaine où on peut marcher pendant à peu près 20 km, 25 km pendant la journée, mais faire 3, 4, 5 arrêts en chemin, qui est une autre façon aussi de découvrir la ville, avec des intensités un peu saccadées. Là. Et sinon, je dirais que San Francisco est parmi mes villes préférées parce que vous avez à la fois la baie, vous avez des petites collines sans arrêt, donc vous êtes un peu dans le up and down sans arrêt, et vous avez une... ce sont des quartiers qui réfèrent non pas des ethnies ou des communautés culturelles, comme on dit à Montréal, mais où vous avez davantage de... vous avez les anciens hippies, vous avez les étudiants, vous avez le quartier des affaires, vous avez toute une diversité d'avantages sociologiques, je dirais.
Est-ce que vous marchez lentement? Est-ce que vous vous imprégnez vraiment de la culture, l'atmosphère? Vous prenez le temps de parler aux gens?
Oui, ça, c'est quelque chose que j'adore. Et quand c'est une marche un peu, je dirais, de nécessité ou une marche de santé, non, là, le rythme de marche est rapide. À une certaine époque, je travaillais en Suisse dans le siège d'une entreprise environnementale. Enfin, je peux le dire, c'est le World Wide Fund for Nature, le petit panda, le WWF, dont les bureaux sont situés... à l'extérieur de Genève, dans une ville qui s'appelle, un village qui s'appelle Glan. Donc, pour nos auditeurs, disons, de Trois-Rivières, c'est un peu comme Cap de la Madeleine vis-à-vis Trois-Rivières ou Blainville ou Boisbriand par rapport à Montréal. Et là, je le faisais à pied. Mais là, c'était vraiment une marche de nécessité.
Attention, à pied de... Vous habitiez...
Alors, j'habitais dans un village, mais j'aurais dû le préciser, un village qui s'appelle Nyon.
Joli petit village.
Ouais, oui, Nyon, qui est très médiéval, alors que Glan, c'est plutôt genre un peu, mais, je vais le dire, un peu plus industriel. Et c'était, de mémoire, c'était à peu près 7 kilomètres entre les deux, et je le faisais à pied le matin.
C'est pas beaucoup, mais c'est une bonne marche quand même.
C'est 14 kilomètres dans la journée. Mais ça, c'est une marche de nécessité, parce que c'était pas très bien, malgré qu'il y avait un train à l'heure, ça vous oblige quand même à dire, ah ben, si je manque celui de 7h34, il faut que je prenne celui de 8h34, là, je vais être un peu en retard. Donc, c'était plus facile. Et en même temps, j'avais décidé de perdre du poids. Donc, c'était vraiment une marche de santé.
Parce qu'en Suisse, on marche bien. Ah, on mange très bien.
On mange très bien.
Vous aviez pris du poids.
Oui.
Je dois faire quelque chose.
Absolument. Alors, j'avais décidé de perdre du poids en marchant et de perdre du poids en mangeant mieux. Là, j'avais des petits problèmes. Non pas qu'on mange pas bien, on mange très, très bien en Suisse, mais on mange un petit peu, un peu gras. Mm-hmm. Et je me souviens très bien d'être arrivé au tout début, j'avais un petit appartement, et je demande, je vais dans un petit marché alimentaire, là, et je demande, votre yogourt, là, genre 1%, 2%, où est-ce qu'il est? Ah, ils disent, on n'en a pas. Ben oui, mais là, j'ai dit, lui, là, il est à 10 %. Oui. Ben j'ai dit, vous n'avez rien en bas de 10 %? Non. Ben j'ai dit, pourquoi? Et je revois encore le commis qui me répond, oh, ça ne serait pas bon. OK.
Ça ne serait pas bon.
Voilà. Alors là, j'ai compris que j'aurais un petit peu de problème, comme demander d'avoir le poisson sans la sauce. Non, vous ne pouvez pas défaire les perches du lac Léman. Ça se sert avec de la sauce blanche. OK. Alors, c'est pas facile de négocier, mais j'ai quand même perdu du poids à l'époque.
Grâce à la marche.
Voilà.
Exactement. Donc, c'est la preuve que la marche, pour la santé, ça aide aussi à réduire le poids.
Et la santé mentale.
Et la santé mentale.
Ouais.
Oui, oui.
La santé mentale, parce que dans la santé mentale, peut intervenir le côté que j'appelle un peu, moi, quête spirituelle dans la marche. D'abord, quand vous faites de la marche, alors peut-être une randonnée avec un groupe, c'est peut-être un peu différent, mais quand vous êtes seul ou avec votre copine, ben là, vous êtes un peu dans vos pensées, là. Et à condition de ne pas être toujours en train de régler les problèmes du couple ou de la maison, quand vous êtes seul, là, vous êtes vraiment dans une espèce de quête spirituelle où vous observez tout autour de vous, le petit arbuste là, dans le sentier, vous observez un fer forgé en ville, et ça peut vous inspirer. Moi, j'ai vécu l'expérience il y a 2 ans, juste après le décès de ma mère. Je me suis rendu sur les champs de bataille canadiens en Italie. Quand j'ai les champs de bataille canadiens, qu'il y a eu la guerre de 39-45, là, la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de Canadiens ont combattu, comme mon père, en Italie. C'est ce qu'on a appelé la campagne d'Italie. Alors, c'est un peu méconnu des gens parce qu'on a tellement parlé du débarquement en Normandie qu'on oublie qu'il y avait des troupes canadiennes en Sicile, puis par la suite à Monte Cassino et à Ortona. Mm-hmm. Le Royal 22e qui était à Ortona, le régiment de Trois-Rivières qui s'est battu à Monte Cassino. Et il y a des champs de bataille et il y a des cimetières. Et c'est très impressionnant. On a quand même entre Ortona 482 soldats canadiens qui sont morts, à peu près 800 à Monte Cassino. Fait que ça fait du monde, là. Et moi, j'ai décidé, après le décès de ma mère, que je ne me sentais pas capable de prendre des vacances. Il fallait que je prenne du temps off, comme on dit, là, que je déconnecte. Mais en même temps, j'avais pas le goût d'aller dans un site de villégiature. Et ça s'est retrouvé exactement. C'est un ami qui fait Compostelle chaque année et qui m'a dit, tu sais, peut-être que tu pourrais faire ça. D'autant plus que j'avais pas fait le deuil de mon père correctement, là. Enfin, correctement dans le sens que j'avais un peu... Je m'étais occupé de ma mère, je m'étais bourré de pilules, alors j'avais pas vraiment... Je l'avais pas vécu et... J'ai beaucoup marché. J'ai marché énormément. Et je suis allé dans tous les sites où lui m'avait parlé qu'il avait combattu le long de la rivière Moreau, comment en plein hiver, en novembre, décembre, janvier, février, c'était gelé dans cette... Et je marchais à peu près 25 kilomètres par jour.
25?
Oui.
C'est beaucoup.
Et je me souviens qu'à un moment donné, la deuxième journée... J'ai craqué. J'ai littéralement, là, à un moment donné, j'étais devant cette rivière-là et je repensais à tout ce qu'il me racontait Et ce que je n'avais pas fait au salon funéraire ou à l'hôpital, j'ai éclaté en sanglots et ça m'a libéré. C'est là que je dirais qu'à cause de cette marche, qui était devenue une quête spirituelle, j'ai réussi à me libérer, d'une certaine manière, de tous ces sentiments qui étaient enfouis au plus profond de moi. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans le processus de deuil à ce moment-là.
Donc, ça marquait un tournant comme Compostelle le fait pour tellement de personnes. C'est un peu la même expérience.
Tout à fait.
Oui.
Oui.
Alors, la pandémie vous a coupé les ailes un peu, comme elle l'a fait à tout le monde.
Oui.
Vous avez hâte de repartir? Et à quel endroit? Quelle est la ville qui vous attire ou les villes qui vous attirent en ce moment-là?
Bien, écoutez, le travail va me ramener rapidement, probablement à Bruxelles. Par contre, là où j'ai vraiment, vraiment le goût de retourner, c'est à Rome, parce que j'ai une copine qui m'attend là-bas, et aussi à Los Angeles, parce que beaucoup de gens là, qui ont de la difficulté à me comprendre, mais j'adore Los Angeles.
Et pourquoi? Pour la marche?
Non, absolument pas. À moins d'aller vraiment là, dans les plages là, au sud, ce qu'on appelle le comté de Orange, là, Orange County.
Oui.
Là. Bon. Non, parce que d'abord parce que j'aime le soleil, parce que j'ai beaucoup d'amis, j'ai toute une communauté d'amis du Québec et puis d'ailleurs qui sont à Los Angeles. Et probablement parce que, un peu à la manière de New York, c'est un peu la ville où tout est possible. C'est un peu Los Angeles, ce que les Américains appellent « the last frontier », la dernière frontière.
Oui.
Bon. Et j'aime le rythme de vie. Et Los Angeles, ce n'est pas une ville bâtie avec des gratte-ciels. Hein? Quand vous regardez le centre-ville de Los Angeles, là, c'est à peu près même pas la moitié, le tiers de Montréal, du centre-ville de Montréal. Alors, pour une ville de 8 millions d'habitants, mais c'est parce que c'est un chapelet de petites municipalités qui fait que vous avez peut-être environ une cinquantaine de municipalités et toutes, à cause de l'étalement urbain, sur une superficie absolument incroyable. Quand vous allez rencontrer quelqu'un pour les affaires, parce que mes premières visites à Los Angeles ont été avant tout pour le travail, et je disais aux gens, d'accord, comment je me rends chez vous? Et on me disait, non, c'est pas ça la bonne question, c'est quel aéroport vous utilisez? Parce qu'il y en a 5 pour couvrir la ville.
Oui, donc, vous parlez de travail, je suis curieux. Lorsque vous allez travailler en Inde, en Europe, sur à peu près tous les continents, est-ce que vous prenez le temps, après les heures de travail, ou vous prenez peut-être une journée ou deux pour justement reprendre ce rythme de marche et découvrir, toujours, en fait, les lieux où vous travaillez?
Toujours. Je dis toujours. C'est pas juste un vœu pieux. Là. Je le fais, je dirais, 3 fois sur 4. Il y a des fois qu'on n'a pas le temps, qu'on est à Londres sur 48 heures. Là. Bon, là, je vais plutôt faire une petite marche autour de l'hôtel. Mais oui, c'est hyper important parce que si vous travaillez à l'international et que ça ressemble comme travailler à Montréal et que vous n'avez pas le contact avec ce qui est local, c'est-à-dire tout ce qui est un peu le patrimoine à la fois culturel, urbain, même en dehors de la ville, le patrimoine gastronomique, ça ne sert à rien de travailler à l'international parce que c'est un demi-plaisir. Et ce que vous devez, parce qu'il y a quand même un sacrifice hein, quand on travaille à l'international, la fatigue, les voyages, etc., mais la marche me permet de contrebalancer ces fatigues-là. Alors, en général, j'essaie toujours de rester une journée de plus. Et donc de découvrir, il n'y a pas longtemps avant la pandémie, j'ai découvert le lac Ohrid, qui est absolument extraordinaire, en Macédoine, qui est sur la frontière du Kosovo et dans les Balkans. Et j'avais des rendez-vous à Skopje, qui est la capitale, qui se fait d'ailleurs très, très bien en marche. Là. Je l'ai fait de nuit, par contre. Là. J'ai fait, après mes réunions, entre 19h et 22h. Et après ça, le lendemain, je suis allé me promener. Et c'est absolument fascinant. Et je suis content d'avoir pris une journée de plus le samedi et d'être rentré seulement le dimanche. Et on apprend toujours des choses. Ce que je ne savais pas, Skopje, c'est l'endroit de naissance, et c'est important, on est à Radio Ville-Marie, c'est l'endroit de naissance de Mère Teresa.
Oui.
Et vous avez tout un parcours où vous avez la présence de Mère Teresa un peu partout. Donc, oui, effectivement, on apprend des choses et j'essaye la plupart du temps de rester un petit peu plus.
Je me souviens, j'étais allé à Tokyo pour une conférence. J'ai dit, je prends une journée de plus, je vais à Kyoto. Arrivé à Kyoto, je demande au chauffeur de taxi, tu m'amènes jusqu'au bout de la ville et je suis revenu à pied pour découvrir les temples bouddhistes, la rivière, les ponts et les gens tellement sympathiques, au sourire, ont communiqué. C'est formidable.
Absolument. Absolument. Et il y a des fois qu'on doit tricher. Je pense que j'ai triché peut-être une couple de fois. Bangkok, j'ai triché. Je n'ai pas marché, mais à 39 degrés Celsius, j'ai dit non, on va faire ça en chauffeur privé.
Bon, alors c'est sur cette note que nous terminons notre entretien. Stéphane, j'espère que vous aurez l'occasion de revenir. C'est fascinant, toutes ces notes de voyage.
Avec plaisir.
Alors, chers amis, c'est ainsi et sur une belle note que se termine notre émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être vous est présenté les mardis à 22h et en reprise les mercredis à 11h. Vous pouvez également écouter les émissions en direct sur le site de Radio VM ou grâce aux émissions archivées sous l'onglet Archives, aussi sur le site jemarchepartout.com sous l'onglet Radio VM. Je tiens à remercier nos invités d'aujourd'hui, Joanne Desrosiers, président du club de marche La Foulée à Saint-Eustache, et le grand voyageur Stéphane Chenec, et bien sûr à la technique, notre complice de toujours, Valérian Fournier. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. À bientôt.